Voix Nue. Toute cette semaine, Martin Kenéen rencontre Philippe Solers. Ce soir, tout ce que j'écris est vrai.
Philippe Solers, vous nous recevez dans votre bureau aux éditions Gallimard. Et puisqu'on est à la radio, j'avais envie de faire partager ce décor à nos auditrices, à nos auditeurs. J'ai pensé à Descartes dans son poêle et j'ai pensé à Montaigne dans sa tour, dans sa librairie. Là où écrit-il, je feuillette à 7 heures un livre, à 7 heures un autre, sans ordre et sans dessin, à pièces décousues. Tantôt je rêve, tantôt j'enregistre et dicte en me promenant mes songes que voici. Mais alors vous, Philippe Solers, quelle description vous nous feriez de votre bureau, de votre librairie ?
À mon avis, vous n'avez pas de bureau semblable à celui-ci dans le monde entier. C'est dommage que nous soyons à la radio, mais essayons quand même de parler ce bureau. Vous entrez et vous voyez tout de suite un rouleau chinois que vous regardez comme si c'était une décoration, mais non, ce n'est pas une décoration. Un chinois ou même un japonais rentre et commence à voir que ça se lit de haut en bas et de droite à gauche, et que c'est un poème que j'ai ramené de Chine il y a fort longtemps, un poème d'ailleurs magnifique, où c'est un moine qui vous raconte qu'il a rendez-vous avec un autre moine qui va franchir une montagne, un fleuve, et qui va rentrer dans une région où les oiseaux chantent et où les fleurs s'épanouissent, mais le rendez-vous n'est pas là. Voilà, ça c'est une première chose. Vous avez ensuite votre regard qui se déporte légèrement sur la gauche et vous voyez un tableau qui indubitablement a été fait par un Chinois parce que c'est une grande virtuosité et c'est un empereur qui part à cheval pour quelques missions. Sauf que si vous regardez par qui ça a été peint, vous voyez qu'il s'agit de Giuseppe Castiglione, Joseph en italien, Castiglione, qui était un jésuite, qui s'était donc à ce point fait aux Chinois que vraiment impossible de croire qu'un occidental à l'époque. Nous sommes en 1739, n'est-ce pas, 18e siècle, que ce soit pas un Chinois qui a fait ça. Maintenant, vous retournez votre regard sur la porte d'entrée du bureau et vous avez juste au-dessus de la tête une aquarelle de Rodin, c'est-à-dire une danseuse de l'époque. C'est un Rodin authentique, il ne faut pas le voler. Hein. Puis juste sur la droite, vous avez le premier numéro d'une revue qui s'appelle « L'Infini ». Et le premier numéro, vous pouvez lire le sommaire, je suis trop loin pour le dire, c'est le premier numéro.
Vous signez l'éditorial avec Norman Mailer.
Oui, donc nous sommes en 1983, sauf erreur. Et puis vous avez surtout, ce qui attire à mon avis tout de suite l'attention, si on regarde, une affiche de Picasso américaine, « The Last Years », c'est-à-dire 1963. 1973, avec là un Picasso en termes de peintre qui avec une dégaine, une force considérable. Après ça, vous avez une grande bibliothèque avec des livres, des tas de livres. Tout à fait en haut, vous avez toute la collection de la première revue dont je me suis occupé. C'est la revue Telle Quelle, qui a fait quand même pas mal de bruit et qui est archivée maintenant comme étant tout à fait classique. Vous avez évidemment une muse, cette grande photo de noir qui me rassure toujours, qui est couchée d'une façon extrêmement voluptueuse et tranquille à la fois sur un damier. Vous voyez que faire plus noir, ou plutôt faire moins blonde, c'est pas possible.
C'est une Olympia de Malik Sidibé.
Ça me rassure beaucoup, parce que j'évite la blondeur des Valkyries de Wagner, vous voyez, je ne fais aucune allusion à qui que ce soit. Et là, vous avez une série de livres un peu en exhibition, si on peut dire. Mon préféré étant le women, femme, en traduction américaine, avec un blurb, vous savez, une sorte de publicité en haut, qui est de l'écrivain américain, qui est un ami, Philippe Roth. Voilà. Donc, ensuite, vous tournez votre regard sur ma table, et là, vous avez un certain nombre de choses qui devraient attirer votre attention. D'abord, un dé, hein, que je vous ai tourné vers le 3. Ensuite, vous avez un éléphant qui m'a été offert de façon très charmante par des Indiens. C'est un symbole de ce qu'ils considèrent comme très profond dans leur mythologie. Et surtout, un Yoni Lingam, n'est-ce pas, qui est une chose sacrée de l'Inde. Vous avez là une petite reproduction qui me rassure aussi. C'est le portrait du fils ou du... enfin... de Manet, hein, voilà. Mais il ne vous échappe pas que vous avez là deux bouteilles de Bordeaux qui vous font signe. Ce bureau est unique, je vous assure. Et, hein, deux bouteilles de Bordeaux, grand cru, hein, qui vieillissent tranquillement. Je les sens vieillir avec leur saveur, etc. Hein, voilà. Et puis là, vous avez alors à droite, d'abord... un ami très très cher qui me téléphone souvent le matin pour discuter de l'actualité avec moi, c'est-à-dire Voltaire. C'est la biographie de René Pommeau, qui était un homme absolument merveilleux. Vous avez là un portrait de Monsieur James Joyce, un aventurier de premier ordre. Vous avez un peu sur la gauche un dieu grec peint par Picasso. Ça pourrait être Dionysos enfant, par exemple. Vous avez la Picasso torse nu. Voilà, on a fait un peu rapidement, trop rapidement. Il y aurait encore des tas de cases à remplir. Mais ce bureau se situe, vous voyez, à l'intérieur des éditions Gallimard, sur une terrasse très précise. Il est petit, mais il est bourré de significations. Bientôt, au printemps, ce que vous voyez dans le fond, là, le treillis va se remplir de roses qui vont s'épanouir. On ne connaît pas très bien l'intérieur des immeubles du 7e arrondissement de Paris. Il faut rentrer et voir les jardins. Voilà, nous sommes dans une maison d'édition qui a plus d'un siècle d'âge, hein, au 5 rue Gaston Gallimard, du nom du fondateur. Et là, je pourrais vous montrer une folie, comme on disait au 18e, qui a été très très bien rénovée, très bien, et qui est tout à fait dans le style de cette époque. Donc vous êtes tout de suite dans une civilisation étrange.
Il n'y a pas d'ordinateur en plus
chez moi, non, jamais. Jamais, rien ne doit faire écran à la pensée. Et les gens qui écrivent sur ordinateur, ça se voit tout de suite.
Et d'ailleurs, vous écrivez, vous y insistez à la main.
J'écris tout à la main. Tutto fatto alla mano. Et ensuite, j'ai besoin de ne rien voir. Mais le bruit d'une vieille machine à écrire qui fonctionne encore, je ne sais pas comment, me rassure beaucoup. Surtout pas d'ordinateur. Donc, je suis, vous voyez, un homme en pleine perdition qui récuse tout. Le numérique notamment, où tout le monde va se précipiter comme dans un océan de déluge. Un océan de déluge. C'est la chose dont je vais vous parler constamment. C'est-à-dire que nous sommes dans un temple de la lecture et donc de l'écriture. La nuit, vous avez des fantômes extraordinaires, parce que vous pouvez rencontrer des gens qui ne se seraient pas salués dans la vie, qui avaient des oppositions terribles. Hein, je sais pas, Malraux, Aragon, Sartre, Camus. Mais seulement, ils sont là la nuit et je les écoute chantonner parfois.
Mais alors, puisqu'on est dans ce temple de la lecture et donc de l'écriture, comme vous dites, Philippe Solers, j'aimerais qu'on revienne un instant à Bordeaux, à Montaigne, dans un texte que vous lui avez consacré en 1984, qui s'appelait « Montaigne le mutant », qui a été repris dans votre théorie des exceptions. Vous écrivez que Montaigne, le premier, signe vraiment en son nom, il le sait et il l'affirme. Et j'aimerais que vous partagiez avec nous le souvenir du premier texte que vous avez écrit.
C'est surtout la première impression physique que j'ai eue. J'ai été élève au lycée Montesquieu à Bordeaux. J'ai ensuite été élève au lycée Montaigne à Bordeaux. Et ça m'a toujours paru étrange qu'il y ait eu tous ces gens-là, les uns sur les autres. À 12 ans, c'était les promenades du lycée. On emmenait les élèves voir la tour de Montaigne et on emmenait les élèves voir le château de la Brède ou Montesquieu. Voilà. Je me rappelle le saisissement en entrant dans la librairie de Montaigne. Qui était ce type qui avait écrit sur les poutres des formules grecques, latines, etc. Enfin, cinglé. Pourquoi a-t-il fait ça? S'il s'était retiré, là. Pourquoi s'était-il retiré, là? On s'égorgeait sous ses fenêtres. C'était des guerres de religion. Et puis, ce qu'il n'aimait pas, les innovations calviniennes, n'est-ce pas? Montaigne n'était pas du tout religieux, ça va de soi. Mais, il voulait pas du tout qu'on se débarrassât du latin et du grec, dans lequel il trouvait la substance d'une renaissance plausible, forte, qui d'ailleurs va arriver, est en train d'arriver. Là, il faudra choisir entre réforme et contre-réforme un peu plus tard. Contre-réforme, on a tort. Il faut parler de révolution catholique. Mais donc, il est là, dans sa librairie, coupé apparemment de tout, au contact des morts. Et on dit toujours, on me reproche parfois de faire des citations, mais des citations, ce ne sont pas des citations, ce sont des preuves de l'activité de l'esprit qui les fait. Et donc Montaigne, vous ouvrez, et c'est bourré de citations, comme s'il avait peur que tout ça disparaisse. Et le voyage à Rome, ça va être pour vérifier, en baisant la mule du pape, par exemple, oh quelle horreur, ce Montaigne. Non, personne ne lit le voyage en Italie de Montaigne, qui est très important. Et il va aller vérifier que le pape, enfin la papauté, l'église catholique, apostolique et romaine, conserve le grec et le latin. Pour lui, c'est capital. Or, vous voyez la proximité avec notre époque, parce que le grec et le latin, allez le chercher là où vous pourrez. Et ensuite, il ne fait pas que ça, quittant sa librairie, voyageant longuement, passant par Venise, etc., où il va voir un peu des prostituées, parce qu'il faut quand même se renseigner. Donc, il va plus loin, il va à Notre-Dame de Lorette, lieu de pèlerinage pour la Vierge Marie, dont la maison aurait été, dit la légende, transportée par les anges jusqu'à Notre-Dame de Lorette. Évidemment, c'est une fable, mais les fables doivent nous intéresser parce qu'elles racontent quelque chose qui déclenche des cultes, des croyances, etc. Donc, Monsieur Michel de Montaigne va poser un ex-voto au pied de sa représentation, un ex-voto, vous savez, c'est des trucs qu'on dépose dans les lieux sacrés pour faire un vœu, hein, voilà. Et là, où il est représenté avec sa femme et sa fille, très bien dans la maison de la Vierge. Et en plus, il précise qu'il a communié, là, Montaigne, en train de communier à Notre-Dame de Lorette. Mais c'est scandaleux, mais qu'on l'arrête. C'est un tradit, pas du tout. C'est l'auteur le plus libre qui ait jamais existé. Donc c'est très intéressant. Et il communie de la main d'un jésuite allemand. Vous voyez? Mais Montaigne, ça a été tout de suite au lycée. Enfin, j'ai eu la chance d'avoir, à l'époque, de très bons professeurs de lycée, de français, par exemple, de latin, qui faisaient lire le héros le local, national, etc. Comme quoi, il faut lire, mais il faut aussi faire semblant. Et si vous croyez que le président Mitterrand, que Dieu est son âme, et lisez vraiment les essais de Montaigne. Il n'avait pas le temps, enfin, mais il a été très pris. Mais il a pris la précaution magnifique de se faire photographier en tant que président de la République par Gisèle Freund. Et il a posé, le monarque républicain a posé dans un fauteuil avec les essais de Montaigne à la main. Ce qui quand même est étonnant parce que cette photo a dû être affichée dans tous les lieux institutionnels, donc dans les commissariats de police, donc Montaigne, d'une certaine façon, regardait d'un œil impassible les diverses bousculades des commissariats, voire même les tabassages possibles. Vous voyez, dès qu'on tire un fil de littérature, parmi ces grands hommes, entre guillemets, ou grands hommes, la patrie reconnaissante, il s'en fout d'ailleurs, mais peu importe, c'est là. Et tout de suite, il y a des anecdotes qui arrivent de partout.
Et vous, quand vous décidez d'écrire, c'est du grec et du latin, vos premiers écrits, c'est des essais à votre façon ?
C'est très marqué par le latin, parce que dès que je vais prendre un pseudo, je le tire d'où ? Du dictionnaire latin. Que j'ai, je pourrais vous montrer mon Gaffio, le latin français. J'étais absolument très, très, très attentif au latin. J'étais bon en récitation, par exemple. Inter se mortales, mutua vivante, et quasi cursores, vitae lampada, tradon. Vous voyez, par exemple, Lucrèce, Virgile, j'étais imprégné de ça. Donc vous voyez bien que c'est un dinosaure complètement disparu qui vous parle, parce que tout ça a l'air très fou. Mais le nom qui m'est venu à l'esprit, je l'ai tiré du dictionnaire latin, c'est-à-dire solers, solercia, solers c'est solus avec deux L tout entier art, lorsqu'il a fallu publier, vous voyez, parce que j'étais mineur, donc il fallait que je prenne un pseudonyme, ma famille n'était pas d'accord pour que je publie, donc j'ai pris ce nom-là, dont j'avais fait une sorte de personnage. Solers c'est l'homme rusé, ingénieux.
C'est Ulysse.
C'est du grec polytropos, c'est-à-dire le surnom d'Ulysse, oui. Habile en ruse, oui. Le type qui est pas facile à saisir, hein, et qui va vivre une odyssée. On va pas arriver à le cadrer vraiment. Voilà.
Ça veut dire que vous n'avez jamais écrit en qualité de Philippe Joyot?
Non, je ne crois pas. Sauf peut-être un article. Non, non. Tout de suite, dès qu'il s'est... Le personnage imaginaire s'est imposé comme pseudo. Joyot, c'est d'ailleurs dommage parce que j'avais quand même aussi présenté les textes à Francis Ponge, que j'ai connu très jeune, qui les avait envoyés à Jean Poulain, et qui avait répondu d'une façon bizarre. Joyot, nom de grand écrivain. C'est trop. Alors, il vaut mieux tamiser, hein, c'est trop. Alors,
si tamise le
célèbre. Comme j'ai toujours été attaqué, qu'est-ce que ce serait si je m'appelais Joyot? Bon.
Écrire, dites-vous, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que vous écrivez dans Une curieuse solitude, votre premier roman en 1958, il me semble que vous écrivez pour atteindre ce qu'on peut appeler la lumière, l'éclair qui à la fois révèle et qui masque les événements, et puis dès votre roman Le Parc, qui va recevoir le prix Médicis, vous vous affrontez, Philippe Solers, à une sorte d'impossible, à un vide. La seule possibilité qui vous reste, semble-t-il, c'est de témoigner de ce que Georges Bataille appelait l'ivresse de la pensée. Pourquoi écrivez-vous ?
Je vais vous dire, en fait, je suis un raté de la musique. J'aurais voulu être musicien. Je peux vous improviser très rapidement des petites choses au piano, par exemple, imiter Thelonious Monk, Thelonious Fair Monk, parce que à ce moment-là, je collectionnais des disques de jazz qui m'apportaient une autre tonalité considérable pour moi. J'aurais voulu être clarinettiste de jazz. J'ai demandé à mes parents de m'acheter une clarinette, ce qu'ils n'ont pas fait, et ils ont bien fait, parce que je serais un très mauvais clarinettiste, probablement. Mais alors, avec les mots, on peut peut-être compenser ce ratage dont je suis très conscient. J'aurais préféré être un musicien de très grand niveau. Si j'avais pu jouer du piano comme, je sais pas, Glenn Gould, Gold, par exemple, que j'écoute en boucle, sans arrêt, avec Bach ou les dernières sonates de Haydn, ça me ravit. Je trouve que je n'ai plus d'estime que pour les musiciens. Je n'ai plus d'estime du tout pour les peintres qui sont devenus des installateurs et qui ne savent plus dessiner, qui font rigoureusement n'importe quoi dans un marché de l'art dit contemporain complètement... C'est de l'argent qui lui-même engendre de l'argent qui disparaît dans l'argent, etc., etc. Les seules personnes, les gens ne lisant plus, les écrivains sont quand même très très en retard par rapport à la bibliothèque, de plus en plus loin. Comme ils lisent pas. Vous comprenez, pour savoir écrire, il faut savoir lire, et pour savoir lire, il faut savoir vivre. Donc voilà. Donc la musique, en revanche, là, on peut pas tricher. Je peux éventuellement vous inviter à ma prochaine exposition de peinture. Ce sera assez vite fait. Je vous fais une installation.
Vous continuez à écrire, Philippe Solers. Et alors justement, aujourd'hui, est-ce que vous entrevoyez pourquoi ? Dans quel but ? Dans quel dessin ?
Je vous réponds comme Samuel Beckett, comme qui ont posé la question. Il a répondu « Bon qu'à ça ». C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est étrange, c'est que ça dégage une liberté très, très, très étonnante que je suis content d'avoir maintenue. C'est comme s'il y avait une force magique là-dedans qui fait que vous obtenez une liberté, voilà, vous publiez, vous décrivez, vous publiez. Au fond, ça s'est pas si mal passé parce que tout de suite, on a commencé à dire que... c'était plutôt pas mal, hein. Il y a eu des éloges considérables.
Aragon, par exemple.
Voilà. Mais, je suis assez content d'avoir tenu bon au point que personne ne m'a jamais dit ce qu'il fallait que j'écrive. Ma famille, ça va de soi. Ça va de soi. Et encore fallait-il pas montrer les poèmes, d'ailleurs très mauvais, que je pouvais faire. J'étais fait pour rentrer dans les affaires de mon père, etc., enfin, pour devenir un homme d'affaires. Voilà.
Roland Barthes, qui très tôt vous a remarqué et a écrit à votre sujet, « Notre vie nous vient de nos livres ». Et changer le livre, c'est donc bien, selon le premier mot de la modernité, changer la vie. Or vous, écrivant, on a évoqué Une curieuse solitude, ce roman qui a quelque chose de proustien, vous en arrivez, je pense notamment à Paradis, à une écriture qui change la littérature, qui change le livre. Mm-hmm. C'était pour changer de vie, changer la vie ?
C'est fait pour plusieurs raisons. D'abord, rester libre. Deuxièmement, augmenter la vie, vous créez une sorte d'aimantation magique qui fait que, comme s'il y avait une force étrange, un aimant, vous allez faire des rencontres, vous allez faire des voyages, vous allez rencontrer des personnes, vous allez avoir des histoires d'amour. Vous allez tout à coup trouver des partenaires dans le passé auxquels vous ne vous attendiez pas forcément. Quand j'avais 13-14 ans, je lisais avec ravissement la chanson de Roland. Voilà, ça me paraissait étonnant, Roncevaux, tout ça. Donc, c'est-à-dire, vous entrez dans l'histoire, c'est une chose qui est très perturbé aujourd'hui, puisque l'ignorance historique, hélas, se multiplie. Voilà, c'est ce qui inquiétait Montaigne, déjà. Il y a lieu d'être inquiet de tout temps. On n'est pas forcément conscient de la microscopique histoire dans laquelle vous êtes, moi aussi, mais qui rejoint d'une façon ou d'une autre, il faut voir les familles, les arrière-familles, enfin, voilà, qui rejoint la grande histoire, où il s'est passé beaucoup de choses, notamment dans ce tragique 20e siècle. Donc, voilà, ce que j'essaye de faire, c'est garder ma liberté en mettant ma propre histoire au niveau de son interprétation dans la grande histoire. Voilà.
J'ai apporté là un extrait de Paradis, pour faire entendre cette liberté qui est la vôtre. Vous accepteriez de nous le lire ? Quelques lignes ?
Alors c'est très bien parce que vous n'avez pas mis de majuscule et vous n'avez pas mis non plus de point. C'est parfait. Ce n'est pas... Alors là, oui, ah, nous sommes à Barcelone, je vois ça tout de suite. Ce n'est pas seulement la plaza qui vient d'entrer dans la verticale, mais la ville entière et la terre entière. Et la matière sourde, calée par sa loi, on approche en fait de la déchirure de la croix souillée dans la soie. Silence, le tueur se fend et se dresse, pointe, pied, angle d'œil fermé, assez profilé, point d'épée, le rayon tranche. Il fait nuit, éclair noir laser dans la nuit. On dit qu'à ce moment-là, certains éjaculent, instant chaos pétrifié, l'âme fine, avalant la garde, coup de grâce au cœur, coup nuque. Je me souviens comme ça d'une fin d'après-midi à Barcelone, un dimanche. Avec Dominguine. Ça, c'est en effet mon expérience en Espagne qui a duré pendant des années où j'allais en fin d'après-midi voir les toreros comme Luis Miguel Dominguine qui n'était pas le seul et qui déclenchait alors une féerie. C'est très gentil à vous d'avoir choisi ce passage, puisque vous savez que la corrida est quelque chose qui désormais est interdit, à parmi tout le reste, parce que tout devrait être interdit. Donc, c'est-à-dire que cette plaza de la Monumentale qui avait été fermée, qui est pour moi inoubliable, je revois Dominguine, il était tellement extraordinaire. Il y avait Ordóñez aussi. Il a fini Dominguine par offrir un taureau au public. Je me rappelle ça très bien. Et si vous dites Barcelone, c'était à l'époque une ville. Maintenant, tout est un peu plus triste. Mais c'était une ville qui ne dormait jamais, sauf entre 5h et 5h30 du matin. J'habitais sur les Ramblas, là, ville étonnante, ville anarchiste, ville révolutionnaire, ville de Picasso qui venait d'Andalousie, mais enfin là, ville Pablo Casals, ce violoncelliste étonnant, ville très 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 incrustée dans l'anarchie, dans quelque chose d'irrépressible, Barcelone. Oui, oh là, oui. Ah oui, ce sont de très très bons souvenirs, d'autant plus que j'étais là avec une femme que j'adorais et qui m'accompagnait à la corrida.
Ce qui tombe admirablement, puisque nous parlerons dans notre prochain entretien des femmes.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Martin Kénéen avec Philippe Solers. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Yves Lehors, Yvan Turc, réalisation Rafik Zénine, coordination Belindola. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.